Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Violence en République centrafricaine. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, a annoncé ce jeudi son intention de poursuivre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité deux ex-chefs de milices centrafricains. Patrice Edouard Ngaïsona, président de la Fédération centrafricaine de football, et Alfred Yekatom, un député. Les deux anciens chefs de milice anti-Balaka, en détention préventive à La Haye, sont accusés notamment de meurtre, viol, acte de torture, mutilation, attaque contre des civils et enrôlement d'enfants soldats. Et ils ont comparu aujourd'hui devant les juges lors d'une audience dite de confirmation des charges devant la chambre préliminaire de la Cour pénale. Cette chambre n'a pas vocation à se prononcer sur la culpabilité des suspects, a souligné le juge Antoine Kessia Mbé Mindoua, en précisant que son rôle est de déterminer s'il existe des preuves suffisantes pour justifier l'ouverture d'un procès. Créé en 2013 après la prise du pouvoir à Bangui par les rebelles de la coalition à majorité musulmane de la CELECA, les milices d'autodéfense anti-Balaka avaient pris les armes pour, disent-elles, défendre les intérêts des chrétiens face aux exactions des groupes armés musulmans. République démocratique du Congo, 14 personnes ont été tuées et 4 blessées lors d'une attaque de miliciens contre un village dans la région aurifère de l'Ituri, province du nord-est du pays. Bilan confirmé par l'administrateur du territoire de Djougou. Riche en or, l'Ituri est en proie à des violences depuis des semaines après une période d'accalmie. Tournée en Afrique de l'Ouest du chef de l'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique, le général Stephen Townsend a réitéré le soutien de l'armée américaine au Burkina Faso pour faire face aux défis au niveau de la sécurité. Selon le général Townsend, Ouagadougou a besoin de vastes initiatives politiques, économiques et militaires pour contenir la menace sécuritaire. Le général Townsend l'a souligné après une rencontre avec le président burkinabé Rochmar Christian Kabore. Pour en parler, Eric Maniraquiza a joint Niamey au Niger, autre étape de cette tournée régionale, l'analyste et directeur du journal L'Événement, Moussa Aksar.
Le général Stephen a visité le Niger et le Burkina parce que vous savez, il y a un regain d'insécurité dans toute cette bande sahélienne. Il se trouve que déjà l'AFRICOM intervient au Niger où les soldats américains ont pu fortifier certaines positions de l'armée nigérienne. Mais aussi, ils ont appuyé cette armée et également, ils ont formé assez de soldats d'élite de l'armée nigérienne. C'est pour cela que le général Stephen est passé par le Niger, qui constitue aujourd'hui la tête de pont des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et vous savez aussi que les États-Unis ont une base aérienne importante à Agadez et qui lui permet aux USA de mener des actions soit au Maghreb ou dans le Sahel pour lutter contre les terroristes. C'est pour cela que le général Stephen s'est rendu au Burkina Faso, qui constitue aujourd'hui, après le Mali, des noyaux faibles dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Au-delà des équipements militaires et de la coopération, quelles sont les ressources dont le Burkina a besoin réellement pour stabiliser la situation?
Il faudrait tout d'abord former les soldats burkinabés. Vous avez eu vent ces dernières semaines du désengagement de certaines forces burkinabées le long de la frontière de Soump. Donc, le général Stéphane est parti notamment pour parler de cet état de fait-là et aussi voir dans quelles conditions appuyer les forces armées burkinabées en mettant aussi l'action sur les actions civilo-militaires dans ces pays.
Vous pensez que c'est pour cette raison qu'il dit que la solution doit venir des forces de défense et de sécurité burkinabées?
Oui, c'est pour cette raison, parce que vous savez, il y a un problème au sein des forces de défense et de sécurité burkinabées. Au niveau de la police, vous avez des syndicats de la police, ces forces auxiliaires, qui ne devraient pas exister dans des pays aujourd'hui qui luttent contre le terrorisme. Tant qu'on ne dissout pas les syndicats au sein des forces auxiliaires, on ne peut pas lutter contre le terrorisme à grande échelle, parce qu'il faut nécessairement les mettre sur des positions avancées, les former pour qu'elles soient intégrées dans les forces armées régulières. C'est pourquoi le général Stéphane a parlé de cet état de fait-là, des forces de défense burkinabées, mais aussi il faudrait faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre les forces de défense burkinabées, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et vous savez qu'il y a eu assez de problèmes avec le régime passé et le régime actuel sur la gestion des forces de défense et de sécurité.
Moussa Aksar, analyste et directeur du journal L'Événement à Niamey, au Niger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique australe maintenant, au Mozambique, des dissidents de la RENAMO, l'ex-rébellion devenue principale partie d'opposition dans le pays, ont revendiqué ce mercredi deux attaques contre des véhicules. Et ils ont menacé de poursuivre leurs incursions si la campagne pour les élections générales d'octobre n'était pas suspendue. Le gouvernement de Maputo et la RENAMO ont signé en août un accord de paix censé mettre un terme à un conflit de plus de 40 ans. Une guerre civile meurtrière qui a opposé les deux camps peu de temps après l'indépendance en 1975 de l'ex-colonie portugaise et qui a duré jusqu'à la signature d'un traité de paix en 1992. La RENAMO avait ensuite repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir, le Frelimo. Afrique du Nord, en Tunisie, une nouvelle demande de libération de l'homme d'affaires Nabil Kaoui, en lice pour le second tour de l'élection présidentielle, a été rejetée hier. Les précisions d'Irénée Armand Ongbo.
Le juge a refusé de statuer, se déclarant incompétent, a indiqué maître Kamel Ben Messoud. Nous allons faire appel, a-t-il ajouté. Le juge d'instruction avait décidé en juillet le gel des biens de M. Karoui et de son frère Gazi, ainsi que d'une interdiction de quitter le territoire. C'est la troisième juridiction à se déclarer incompétente, a déploré un des avocats de M. Karoui, maître Nazisoui, rappelant que la cour d'appel a également refusé de statuer le 3 septembre, tout comme la cour de cassation dix jours plus tard. M. Karoui, dont la candidature a été validée par l'instance chargée d'organiser les élections, a fait campagne à travers son épouse Salwa Smaoui et la chaîne de télévision qu'il a fondée Nesma. Poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, il a été arrêté le 23 août, soit dix jours avant le début de la campagne. Son arrestation avait suscité des interrogations sur une instrumentalisation de la justice. Néanmoins, il est sorti deuxième au premier tour de la présidentielle avec 15,58% des suffrages, derrière Kais Saied, 18,4%.
Actualité américaine, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé ce jeudi aux Émirats Arabes Unis dans le cadre d'une tournée dans la région du Golfe Arabo-Persique visant à évoquer avec les alliés des États-Unis la réponse à apporter aux récentes attaques contre les installations pétrolières saoudiennes. Lors de son escale en Arabie Saoudite la veille, M. Pompeo avait qualifié ces attaques d'actes de guerre. Peu après la présentation d'une enquête saoudienne selon laquelle Téhéran a incontestablement parrainé l'attaque. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Dépêché en Arabie Saoudite afin de coordonner les efforts pour contrer l'agression iranienne dans la région, M. Pompeo a réaffirmé que l'Iran était responsable des frappes dévastatrices de samedi revendiquées par les rebelles yéménites houthis, tandis que le président américain Donald Trump affirmait depuis Los Angeles disposer de beaucoup d'options pour répondre à l'Iran. À Jeddah, le chef de la diplomatie américaine a rencontré l'homme fort du pays, le prince héritier Mohamed Ben Salman. C'était une attaque iranienne, ce n'est pas venu des Houthis, a insisté M. Pompeo à son arrivée, évoquant un acte de guerre et assurant que les équipements utilisés ne sont pas connus comme faisant partie de l'arsenal des Houthis. Riyad a de son côté accusé l'Iran d'avoir incontestablement parrainé les attaques. Lors de la présentation d'une enquête officielle, le porte-parole du ministère saoudien de la Défense, Turki al-Maliki, a dévoilé des débris de drones et des missiles de croisière. Le responsable saoudien n'a toutefois pas accusé directement l'Iran d'avoir lancé les attaques depuis son territoire. Une enquête doit déterminer l'origine exacte des tirs, a-t-il dit. Et Samedine Hachina, conseiller du président iranien, a qualifié sur Twitter cette présentation de désastre médiatique pour l'Arabie Saoudite, le lieu de fabrication et de lancement des missiles n'ayant visiblement pas pu être établi. M. Trump a annoncé mercredi sur Twitter avoir ordonné un durcissement substantiel des sanctions contre l'Iran et a ajouté plus tard qu'il en préciserait les détails d'ici 48 heures.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.